Je suis très content d'être parmi vous ce matin. Ça fait quelque temps, ça fait 5 mois que je suis pas venu sur le stage pour apporter la parole. Ça a été un temps vraiment magnifique. Durant ces prochains temps, j'aurai l'occasion justement de vous partager un peu mes expériences que j'ai vécues dans ces 4 mois de temps sabbatique. On va commencer un peu aujourd'hui, mais durant ces prochains temps aussi, on va aussi expliquer au fur et à mesure un peu. Il va y avoir certains changements qui vont se faire tout au long dans ces prochains mois à l'Église par rapport à la direction, mais aussi par rapport à certaines activités qu'on va faire. Mais on vous dira au fur et à mesure au temps voulu. Ce matin, j'ai voulu reprendre, j'étais regardé la dernière prédication que j'avais faite au mois d'août, et c'était justement se retirer pour mieux écouter Dieu. Je vous avais partagé comment que j'avais besoin de ce temps pour être renouvelé, pour pouvoir entendre Dieu, de pouvoir comprendre aussi ce que Dieu voulait pour moi pour la suite. Ce temps mis à part, ça a vraiment été un temps béni, autant pour moi que pour ma femme, de pouvoir voir d'autres personnes, de voir d'autres chrétiens, d'autres églises à travers le Canada, de pouvoir aussi vivre une expérience vraiment très différente. Et je remercie vraiment le Seigneur de ce temps que j'ai pu avoir. Mais surtout, je remercie le Seigneur parce que même si je n'avais pas beaucoup de contact avec vous, j'entendais quand même que les nouvelles étaient bonnes. J'entendais comment que le comité et le pasteur Herman avaient vraiment pris à cœur de continuer, d'apporter peut-être d'autres choses aussi. Et on a pu voir comment que le Seigneur était au contrôle de tout cela. Donc, aujourd'hui, dans cette nouvelle année, on sait l'habitude, on a toujours un temps de jeûne et prière. Comme vous avez vu dans les annonces, il va y avoir comme 2 temps. Il va y avoir un temps pour notre église de 4 jours à partir de mercredi prochain. Et à la fin du mois, il va y avoir un temps de jeûne et prière avec l'Église méthodiste du Canada. On vous l'expliquera au fur et à mesure un peu comment ça va se passer. Donc, pour préparer ce temps de jeûne et prière, j'aimerais vraiment qu'on puisse reprendre, comme je l'ai un peu mentionné dans les vidéos, je ne sais pas si vous avez vu un peu les vidéos que je vous faisais, des paysages, des lieux où j'étais, et je vous parlais que j'étais vraiment touché par une histoire, par le prophète Élie. Comment que durant tout ce périple que j'ai fait dans l'Ouest, en Suisse, le prophète Élie est venu comme me questionner, me faire réfléchir par rapport à sa propre vie, par rapport à son message, par rapport à ce qu'il vivait personnellement et comme ça. Donc, on sait que cet homme, Élie, a vécu aussi un certain temps sabbatique. On va le voir tout à l'heure, comment que presque pendant 3 ans et demi, il est resté loin de la population, loin de son ministère. Et même après avoir vécu une belle chose sur le mont Carmel, il est retourné dans le désert un certain temps, suite un peu à un temps plus difficile. Alors, ouvrons notre Bible dans 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18, verset 21. Et on va voir justement comment que Élie, comment nous savons que Élie a eu un grand ministère. Il a eu des hauts, il a eu des bas. Et on va voir comment que justement Élie nous ressemble beaucoup et comment que nous avons besoin de nous préparer aussi pour ce temps spécial que nous allons vivre à travers ce temps de jeûne et prière. En Roi, chapitre 18 et 21, donc Élie va se retirer pendant 3 ans et demi pour revenir sur la montagne du mont Carmel, pour devant tout le peuple, pour défier 450 prophètes de Baal pour savoir quel était le véritable Dieu du ciel et de la terre. Puisque le peuple balançait, le peuple savait qui était Dieu, mais en même temps, ils adoraient d'autres dieux. Alors, 1 Roi 18-21 dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Le peuple ne lui répondit rien. Imaginez Élie qui se présente sur la montagne devant un peuple nombreux, devant le roi, qui voulait quand même aussi sa mort, parce que rappelez-vous que pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Il n'a pas plu sur le pays à cause de la prière, à cause d'Élie. Alors tout le monde était un peu comme enragé à cause d'Élie. Et là, Élie convoque le peuple. Et là, devant tout le peuple, lui seul, il va dire, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Le peuple ne lui répondit pas. Donc on sait comment que la suite de l'histoire, comment que Les prophètes ont invoqué le nom de leur Dieu pendant des heures, ils ont même fait des incisions et tout ça pendant des nombreuses heures. Rien, le feu n'est pas tombé sur l'offrande qu'ils avaient préparée. Puis on sait qu'Élie a construit un autel, il a mis par-dessus donc le sacrifice et il a mis encore de l'eau. Plusieurs fois, il dit, remplissez, mettez de l'eau, mettez de l'eau. Et même, il avait fait une rigole autour de l'autel et la rigole était pleine d'eau. Et Élie invoqua le nom de l'Éternel et le feu tomba du ciel. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et même l'eau qui était à côté fut évaporée. Tout cela à cause de la puissance de l'Éternel. Donc, c'est vraiment une victoire complète de qui était véritablement Dieu. Et le peuple entier le vit et reconnut que c'était le Dieu, l'Éternel, le Dieu des ciels et de la terre, qui était le véritable Dieu. Et il se prosterna visage contre terre. Donc, on pourrait dire que le courage d'Élie, après ce temps sur la montagne, il devait être au top. On verra tout, on verra une autre fois pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Donc, comme vous l'avez vu, donc cette histoire d'Élie m'a accompagné durant son temps sabbatique parce que j'ai vu de ce prophète ces différentes hauts et bas, mais aussi de ce temps spécial qu'il a mis dans le désert. Le temps que Dieu l'a mis en retrait pour travailler sur lui. Et j'aimerais qu'on puisse nous préparer, non pas à avoir un congé sabbatique maintenant, mais pour un temps d'écoute, un temps de prière et d'intercession. Il est bon, dès les premiers instants de la nouvelle année, de dire Seigneur, Seigneur, où je suis? Et j'aimerais vous poser la question un peu, qui est peut-être un peu troublante, mais qui est même très pertinente. Comme il l'a posé, Élie a posé au peuple, nous puissions la poser aussi ce matin. Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? C'est vrai que c'est une question osée qu'on pourrait se poser, parce qu'on est venu ce matin pour adorer, pour louer Dieu. Pourquoi poser la question, est-ce que vous clochez ou vous dansez l'un sur l'autre, un pied avec Dieu, un pied sur le monde? Alors, je ne suis pas là pour vous lancer des pierres. Mais j'aimerais qu'à travers cette question-là, on puisse dire, Seigneur, réellement, comme le peuple, est-ce que je cloche d'un pied ou l'autre? Est-ce que quand le dimanche matin ou quand je vis des bonnes choses avec le Seigneur, je loue le Seigneur, je suis béni? Puis lorsque peut-être que je suis au travail ou dans ma famille ou dans mes affaires, ben Dieu est en retrait. Puis je fais mes affaires à ma façon. Élie va demander au peuple de donner une réponse. Et on sait que lorsqu'il a posé cette question, le peuple ne pouvait pas répondre parce que le peuple était comme mélangé. Ils voulaient reconnaître Dieu, l'Éternel, le Dieu des cieux et de la terre, comme leur Dieu, mais en même temps, ils adoraient d'autres idoles. Ce matin, on peut poser encore cette question pour savoir que si réellement notre cœur n'est pas partagé, si notre engagement avec le Seigneur ne s'est peut-être pas refroidi ou peut-être n'arrive plus à avoir un premier amour comme nous avions dans les premiers temps. Au comité officiel, on a parlé de l'importance de l'évangélisation et cette année, on va prendre un temps justement pour nous préparer à l'évangélisation. Mais ce que je disais au comité, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup d'activités d'évangélisation en tant qu'Église. Mais l'évangélisation, ça commence par nous. Et ce n'est pas une obligation d'évangéliser. Ça doit être inné, ça doit venir du cœur. Lorsque vous avez connu le Seigneur, lorsque le Seigneur a changé votre vie, les premières choses que vous voulez faire, c'était justement d'annoncer, d'aller dire aux autres ce que Dieu avait fait pour vous. Mais c'est vrai qu'avec le temps, ben, peut-être on vient un peu habitué au message, puis peut-être qu'on est moins intéressé à le partager autour de nous. Mais si notre cœur brûle pour le Seigneur, alors nous voulons aussi le partager autour de nous. L'Élie, ensuite, quand il est parti donc du Mont Carmel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un temps pour prier avec persévérance. Et rappelez-vous de cette histoire. Il dit à son serviteur, monte sur la montagne pendant que je prie pour voir si tu vois un nuage. Imaginez, le serviteur est monté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Puis chaque fois, il disait, mais Élie, là, tu me fais monter, tu me fais travailler, tu me fais aller là-haut, il n'y a rien du tout là. Qu'est-ce qui se passe? Et on sait que Élie a continué de prier, à persévérer. Comme Dieu avait répondu à sa prière qu'il n'avait pas eu de pluie pendant 3 ans et demi, il savait qu'il avait besoin de prier avec insistance, avec persévérance pour que la pluie revienne. Et on sait que c'est seulement au bout de la septième fois que le serviteur a dit, je vois un petit nuage. Et on sait qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse nous encourager justement, que dans ce temps de jeûne et prière, nous puissions avoir cette même attitude qu'Élie, d'avoir une prière insistante, persévérante par rapport aux choses que nous vivons. Et de continuer à se poser la question, jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Il avait posé cette question au peuple. J'aimerais aussi que l'Esprit de Dieu puisse nous le dire ce matin et durant ce temps de jeûne et prière, avec franchise, que nous puissions répondre. Et on est là pour s'encourager, on est là pour grandir dans notre cheminement avec le Seigneur. Et on aimerait que dans cette année 2025, nous puissions encore grandir, nous puissions encore aller plus loin avec le Seigneur, parce que le Seigneur a quelque chose à nous donner. Alors cette semaine, justement, nous allons voir à travers un texte d'Ésaïe 58. Ouvrez votre Bible dans Ésaïe 58. Je ne vais pas prendre le texte aujourd'hui parce que nous allons l'étudier durant ces prochains jours, mais on va lire juste un verset. Donc, on sait que Ésaïe 58, on appelle ça comme le paragraphe ou le chapitre du véritable jeûne devant le Seigneur. Ésaïe chapitre 58, verset 2, il dit. Ésaïe disait, jour après jour, tournez vers moi. Ils désirent connaître ce que j'attends d'eux. On dirait une nation qui agit comme il faut et qui n'abandonne pas le droit proclamé par son Dieu. Ils réclament de moi de juger justement et désirent ma présence. Donc, Ésaïe, comme dit, le peuple avait besoin ou avait envie de connaître ce que Dieu avait pour eux, qui voulait être une nation comme il fallait le faire, qui n'abandonne pas le droit proclamé par son Dieu. Mais on va le voir, vous allez le voir durant cette semaine, que la suite du chapitre est moins glorieuse. Comment que souvent, peut-être, justement, on aspire à quelque chose avec Dieu, mais en même temps, on fait des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Et c'est comme cette vérité que chacun de nous, on peut le dire à la fin du verset 2. Je désire ta présence. Ou d'autres traductions, je désire se rapprocher de Dieu. Voilà notre désir pour cette semaine, c'est de se rapprocher de Dieu, de faire la volonté de Dieu comme lui, il le désire. Donc j'aimerais que ce chapitre 58 soit pas simplement vu comme un texte de l'Ancien Testament, dans le sens que dire, ah oui, ben ça c'était une parole pour le peuple d'Israël que Ésaïe le prophète a dit, mais que nous puissions prendre. Que nous puissions prendre ce texte pour nous, que nous puissions au lieu de mettre le nom d'Israël, qu'on puisse mettre notre propre nom ou le nom de l'Église pour qu'on puisse être interpellé vraiment par rapport à ce texte. Dans le but de nous faire réfléchir, de nous montrer à chacun de nous et à notre Église ce que le Seigneur veut. À chaque année, après le temps de prière, jeûne et prière, il y a des personnes qui viennent vers moi, qui disent, Pasteur, mais je suis désolé, je n'ai pas pu prendre le temps, jeûne et prière, tu vois, j'avais tellement de choses à faire, j'avais un programme, etc. Et comme ça. Puis, je ne veux pas aller, je ne veux pas vous, comment dire, vous tordre le bras ou comme ça. Mais souvent, souvent, on ne prend pas le temps nécessaire de s'arrêter. C'est vrai que peut-être que dans cette semaine-là, vous avez un programme déjà chargé au travail ou comme ça. Vous pouvez prendre le temps un peu plus tard. Mais l'idée, le fait de le faire en tant qu'Église, c'est pouvoir dire, OK, on s'arrête, et puis on recherche la présence de Dieu. Puis on regarde ce que Dieu veut nous dire pour moi, personnellement déjà, pour nous, en tant qu'Église. Vous savez, lorsque j'ai pris ce temps sabbatique, une chose que j'ai vraiment appréciée, c'est prendre des temps vraiment, des très bons moments avec Dieu. J'aimais aller dans la nature. Hein. Quand on était en Saskatchewan et tout ça, c'est tellement immense, donc je pouvais me promener des heures sans voir les mêmes choses. Et j'aimais ces temps où je pouvais simplement marcher, voir la beauté du paysage, la création de Dieu, puis en même temps de me laisser inspirer, que Dieu m'inspire, que Dieu me prépare, me parle. Et je me rappelle que plusieurs fois, dans ma réflexion avec le prophète Élie, je voulais aller comme assez vite. Je voulais que Dieu me dise telle chose. Je voulais réfléchir sur tel point. Puis c'est comme à un moment donné que Dieu me dit, mais Philippe, il dit, attends, attends, tu as le temps là, demain, tu es encore là, et après-demain, tu es encore là. Prends le temps, va pas trop vite, va pas trop vite, prends le temps de vraiment t'inspirer, prends le temps de vraiment vivre ce texte qui vienne en toi, qu'il puisse te changer, qu'il puisse te transformer. Et c'est ça que j'ai vraiment vécu avec le Seigneur, c'est de prendre le temps. Donc, je sais que pas tout le monde peut faire un temps sabbatique de 4 mois, mais on a besoin de prendre des temps de retrait, parce que dans notre monde aujourd'hui, ça bouge tellement vite que c'est difficile. C'est difficile d'entendre la voix de Dieu, d'écouter Dieu dans le brouhaha que nous avons. Comme Élie, pour se préparer justement à avoir cette puissance de Dieu qui descend à travers le feu, il a été 3 ans et demi dans le désert, puis il a été chez la veuve. Ça a permis de voir comment que Dieu prenait soin de lui. Et rappelez-vous que c'est un oiseau, un corbeau, qui donnait jour après jour la nourriture. Imaginez, hein? Ça c'est le premier service Uber, livraison à domicile de la nourriture. À chaque jour, il arrivait pour pouvoir servir. Mais imaginez que le corbeau, ce n'est pas vraiment un oiseau qui est docile. Ce n'est même pas un oiseau qui est pur. Donc imaginez Élie qui disait, mais franchement, Dieu, tu pourrais peut-être me faire venir par quelque chose d'autre. Tu as la puissance. Mais c'est comme il disait, je te donne juste la nourriture que tu as besoin pour la journée, matin et soir, par un animal qui a peut-être insignifiant, mais pour te montrer que je suis capable de faire de grandes choses. Qu'est-ce que fait Élie durant tout ce temps qu'il est au bord du torrent? Je peux imaginer qu'il était dans la présence de Dieu, dans l'écoute de sa voix, dans la préparation de ce que Dieu allait faire tout plus loin. C'est vrai que ça a pris 3 ans. On pourrait se dire, mais c'est un peu une perte de temps. Franchement, pourquoi attendre 3 ans? Bon, c'est vrai qu'il avait une mission par rapport à la sécheresse. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est possible que nous, dans notre société d'aujourd'hui, on prenne plus de temps avec toi? Est-ce que c'est possible, pas forcément 3 ans, mais on est tellement dans notre programme surchargé, que des fois on n'a même pas le temps de prendre 1 heure par jour pour le Seigneur. Dieu veut nous rappeler que pour lui, le temps, un jour c'est comme 1 000 ans, 1 000 ans c'est comme un jour. Si Dieu a permis qu'Élie soit durant tout ce temps dans le désert à se préparer, c'est parce qu'il avait un travail à faire avec Élie. Et il désire que nous aussi, dans cette nouvelle année, nous puissions aussi avoir ces temps de jeûne et de prière, de se préparer, dire, Seigneur, là, je sais que j'ai un programme, j'ai un travail, j'ai la famille, j'ai plein d'activités, mais est-ce que je peux prendre ce temps pour pouvoir t'écouter? Je lisais justement un article cette semaine sur l'écoute de Dieu et le défi dans notre monde moderne qui s'intitule Survivre au bruit, comment rester centré sur l'essentiel? C'est par un Québécois, Michel Vincent. Et voici ce qu'il dit. Je vais vous lire un peu. Je l'ai mis aussi sur le tableau. Voici ce qu'il dit. Il y a eu une époque où le téléphone ne servait qu'à parler. Hein, rappelez-vous de ce temps, hein? Le vieux téléphone, comme on le voit sur l'image. Hein? On pouvait juste débrancher, faire le téléphone, ring, 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 puis parler. Hein? Et que pour écrire à une personne, il fallait lui envoyer une lettre par la poste et attendre souvent plus de 2 semaines pour recevoir une réponse. Hein? Quand je lis des biographies des premiers missionnaires, quand je voyais qu'ils écrivaient des lettres, ça leur prenait un mois depuis la Chine ou l'Afrique pour arriver même en Europe. Et après, il fallait réécrire un mois. Aujourd'hui, hein, c'est avec le texto, hein, c'est quoi? 2 secondes. Hein? Il fallait donc, la technologie des dernières années nous a immergés de moyens de communication et apporté tout un lot de distractions, pour ne pas dire de distorsions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement de façons de communiquer, on a tellement trop, tellement trop. Regardez ce qu'il dit pour la suite. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, il est devenu de plus en plus difficile de maintenir notre concentration sur l'Évangile et d'entendre la voix de l'Esprit-Saint. Les bruits incessants de notre environnement moderne attirent notre attention, attise nos désirs et nous éloigne de la présence de Dieu, tout en empêchant de vivre pleinement notre foi chrétienne. C'est une phrase qui est percutante, mais qui est tellement vraie. Aujourd'hui, quand je réfléchis, je me dis, mais avant, comment est-ce qu'on faisait? Quand on n'avait pas tout le cellulaire. Je vois aujourd'hui, là, les gens, ils se promènent avec leur cellulaire, même ils traversent la route en regardant leur cellulaire. Regarde, même pas si une voiture qui arrive comme ça. Moi, plusieurs fois, ça, j'ai failli écraser quelqu'un comme ça. On est tellement arrivé sur notre cellulaire, sur les choses, sur les nouvelles et comme ça. Mais qu'est-ce qu'on faisait avant, quand on n'avait pas de cellulaire? Qu'est-ce qu'on... Hein? On prenait peut-être plus de temps avec les amis. On prenait du temps à téléphoner. Aujourd'hui, bon, on écrit des textos, c'est plus vite, plus rapide. Hein? Ben, c'est moins personnel, mais on n'a pas le temps de vraiment prendre le temps avec les gens. On est dans un monde tellement qui va vite, tellement vite. Il continue le prochain dia, il continue l'article en disant justement quelques sources qui empêchent de n'écouter le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ça, mais rappelez-vous, puis on connaît ces points. Le premier, c'est la technologie, hein? On sait. Donc, les cellulaires, les réseaux sociaux, la télévision, les chaînes spécialisées, Internet sont autant d'outils. S'ils ne sont pas utilisés avec sagesse, peuvent devenir de véritables obstacles à notre relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait quand on arrive à la maison, c'est on ouvre nos télévisions. Et moi, en tant que pasteur, je peux vous le dire, peut-être que j'ai déjà dit, mais quand je vais visiter des gens, la prochaine fois, vous ferez attention. Il y a des gens, la première chose quand j'arrive à la maison, ils ouvrent leur télévision. Et je suis en train de parler avec la télévision derrière. Et on est en train de commenter la télévision. Mais moi, je ne suis pas venu pour regarder la télévision. Je suis venu pour parler avec les personnes. Mais vous comprenez que souvent, on est tellement pris par cela que c'est automatique qu'on fait cela, qu'on fait ces gestes. Alors, la prochaine fois, vous ferez attention. Je ne veux pas dire qui c'est là, mais ça arrive, ça arrive. Après, généralement, j'ose de dire, est-ce qu'on peut éteindre la télévision? Ou est-ce qu'on peut baisser le son? Au moins baisser le son, s'il vous plaît, parce que je veux parler avec toi. Mais on est comme ça. Donc, ils captent l'attention, ces réseaux sociaux, le cellulaire, et asservissent notre cerveau par un flot continu d'informations et de distractions qui nous empêchent de simplement contempler Jésus. Qu'est-ce qu'on fait le premier chose du matin? On regarde notre cellulaire, on regarde si on a des courriels, on regarde les informations, au lieu peut-être de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Ensuite, il y a le matérialisme. Hein? On est dans une société de consommation dans laquelle on est baigné, qui nous pousse à rechercher le bonheur, la satisfaction dans l'accumulation de biens matériels plutôt qu'en Dieu. Toutes ces choses nous éloignent des vraies richesses spirituelles. Tout ce qui est la publicité, les influenceurs, les réseaux sociaux nous entraînent dans une spirale où on est insatisfait de ce que nous sommes, de ce que nous avons. Nous voulons toujours regarder. Et on le voit aujourd'hui dans les publicités. On voit comment que plusieurs fois, mais moi, à chaque fois, ça m'énerve de voir ça. Dans les publicités, on voit qu'il y a un couple qui regarde le voisin ce qu'il a. Il a acheté une nouvelle maison, il a acheté une nouvelle voiture, un nouvel ordinateur, puis il veut la même chose. C'est comme dire, mais oui, mais lui, il a le droit d'avoir une nouvelle tondeuse. Pourquoi moi, je ne pourrais pas avoir ça? Et puis après, l'autre, il a une nouvelle, puis on est attisé par cela. Et aussi avec un crédit qui est facile et accessible aujourd'hui, hein, on peut assouvir tous nos désirs, même sans passer par la prière. Avant, plusieurs fois, ben, j'ai été en Afrique, et moi, ce qui m'avait étonné en Afrique, c'est comment que les gens priaient avec insistance et persévérance, mais surtout avec foi. Et combien de fois que j'ai vu justement des personnes qui n'avaient pas de nourriture et qui priaient et que Dieu permettait que quelqu'un ait la nourriture. Puis moi, je voyais ça, puis moi, j'étais jeune, j'avais 20 ans. J'étais en Suisse, donc je n'avais pas besoin de prier pour la nourriture. Puis j'étais émerveillé, je dis, waouh, c'est incroyable ces gens. Mais est-ce que vous avez déjà prié ici au Québec pour de la nourriture? Hein, on remercie Dieu pour la nourriture. On n'a pas besoin de prier pour la nourriture. On va au magasin, il y a 50 sortes de céréales, de pâtes, etc. Donc on peut remercier le Seigneur, mais tout ça, on oublie de passer par la prière. Seigneur, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ça? Est-ce que j'ai besoin d'avoir le dernier ordinateur? Est-ce que j'ai besoin d'avoir la voiture la plus sophistiquée? Ensuite, on voit l'activisme. Hein? Le rythme effréné de la vie moderne nous laisse souvent peu de temps pour la prière. Pasteur, je n'ai pas le temps. Pasteur, j'ai la famille, j'ai le travail, j'ai les obligations. C'est vrai, on est tous dans la même chose. Mais est-ce qu'on prend le temps pour méditer, pour l'étude de la parole de Dieu? On trouve notre satisfaction dans l'exécution plutôt que de la contemplation. J'aime cette phrase. On trouve notre satisfaction dans l'exécution. On exécute, on agit, on fait des choses au lieu de contempler. Seigneur, je te remercie pour ta bonté. Je te remercie pour ta création. Je te remercie pour ce temps que je vis avec toi. Trop souvent, donc, nous faisons beaucoup et tentons de faire mieux, sans vous nous demander si nous le faisons selon ce que Dieu désire. Et un autre point, c'est les préoccupations. Les soucis du quotidien, les problèmes financiers, les difficultés relationnelles peuvent également nous empêcher de nous concentrer sur Dieu. Ça va susciter du stress, de l'anxiété, toutes nos pensées qui vont être emprisonnées à chercher des solutions, mais par nous-mêmes. C'est vrai que la société aujourd'hui, la vie, même si peut-être nous avons beaucoup de choses plus que dans certains pays, mais nous pousse à nous préoccuper. Préoccuper pas forcément pour la nourriture, mais préoccuper par les autres. Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour payer toutes les factures? Est-ce que je vais garder mon travail, etc. Toutes sortes de choses qui nous préoccupent, qui nous mettent de l'anxiété, de la peur. Donc, toutes ces choses, prochain dia, et même d'autres, apportent des conséquences que chacun de nous, on va vivre, et moi aussi en premier. Comme toutes ces choses nous éloignent de Dieu. Donc, en se focalisant justement sur les bruits du monde, on perd de vue l'essentiel. On s'éloigne de la présence de Dieu. Et je vois comment que l'ennemi travaille ici. L'ennemi, il n'a pas besoin de peut-être nous dire, va pas à l'église et comme ça. Il a simplement de nous mettre plein de préoccupations, plein de surconsommation, plein de choses à faire. Et on oublie d'être dans la présence de Dieu. La voix du monde et de nos désirs crie alors plus fort que celle de Dieu. On entend plus les choses de la société ou les choses qui nous poussent à acheter ou à faire que la voix de Dieu. Elles affaiblissent aussi notre foi. Les distractions nous empêchent de nourrir notre foi par la prière, la lecture de la Bible, la méditation. C'est que si on passe beaucoup de temps dans toutes ces préoccupations, dans toutes les choix que la société nous dit, bien à ce moment-là, notre foi est limitée. Parce qu'on ne compte plus vraiment sur Dieu. Elle nous rend vulnérables à la tentation. Lorsqu'on n'est pas centré sur Dieu, nous sommes plus susceptibles de tomber dans le péché. À force de nous exposer, justement, nous risquons de devenir plus vulnérables. L'ennemi a simplement de nous donner plein de choses dans nos pensées, à faire ou à ne pas oublier, à s'occuper. Et pendant ce temps-là, on ne pense pas à Dieu. Pendant ce temps-là, on n'est pas dans l'écoute de Dieu. Prochain dia, elle nous empêche de discerner la volonté de Dieu. Donc le bruit du monde va comme étouffer la voix de l'Esprit Saint et va nous rendre incapables de discerner la volonté de Dieu pour notre vie. Et l'auteur donc de cet article apporte plusieurs solutions. Et une des solutions qu'il donne, c'est le silence et la solitude. Prendre régulièrement du temps pour se retirer dans le silence, dans la solitude, nous permet de reconnecter et d'entendre sa voix. Lorsque justement j'étais dans l'Ouest et que je me promenais, il y avait comme le silence. Je veux dire, le prochain voisin était comme à 2 000 km. Donc, je n'avais pas de problème de bruit. Et je pouvais entendre les bruits de la nature. Et je pouvais me centrer sur Dieu. Et j'ai vu comment que ça fait du bien. Ces temps de solitude, ces temps où on peut rester seul avec le Seigneur. Généralement, encore aujourd'hui. C'est vrai que Dieu peut parler à travers un temps de louange. Dieu peut parler à travers un temps de prière, d'intercession collectif. Mais Dieu aime nous parler dans le silence. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on soit disponible. Il veut que tous les bruits autour de nous ne nous dérangent plus, mais qu'on soit centré sur le Seigneur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile d'être dans le silence. Regardez Marc chapitre 1, verset 35, ça c'est Jésus. Il dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore tout à fait nuit, il se leva. Donc Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. Jésus avait tout le ministère, avait toute la pression qu'il avait besoin de ces temps réguliers avec son Père céleste. Et voilà pourquoi qu'il sortait, même avant le lever du soleil, parce qu'il dit, après, j'aurai plus le temps. Alors, est-ce que nous pouvons dans cette année de dire Seigneur, je ne veux pas me faire un engagement que je ne peux pas tenir, mais aide-moi à prendre des temps de silence avec toi. Et c'est vrai que ce n'est pas facile quand on a des enfants, quand on a des occupations, un travail comme ça. Et je vous encourage à prier puis dire Seigneur, est-ce qu'il y a un endroit? Peut-être c'est peut-être dehors, même s'il faut se promener, bon, moins 20, moins 30, c'est un peu difficile de rester vraiment dans la présence de Dieu quand on gèle, mais de se promener dehors dans la nature, ça fait toujours du bien. Mais simplement aussi peut-être dans un endroit, dans votre chambre, vous fermez la porte. Ou comme par exemple Suzanne Wesley, qui était la maman donc de John Wesley, le fondateur de l'Église méthodiste, disait, elle avait, je pense, 16 enfants, hein, je crois, 16 enfants. Et pour pouvoir entendre silence avec 16 enfants, c'est un peu compliqué, hein. Elle disait, elle se mettait à genoux et puis elle remettait sa robe par-dessus. Bon, peut-être les dames pourront mieux expliquer comment on met les robes. À ce moment-là, il y avait comme plusieurs voiles. Et les enfants savaient que lorsque elle faisait ça, qu'il fallait se tenir tranquille. Mais même si ce n'était pas tranquille, elle est tellement concentrée sur ce temps avec Dieu qu'elle n'entendait même pas les bruits de ses enfants. Alors, vous pouvez peut-être essayer ça au milieu de votre chambre avec les enfants qui crient à côté. Peut-être ça va marcher, mais non, mais sinon, de trouver un endroit, dire, Seigneur, c'est où que je peux le faire? Où est-ce que je peux prendre ce temps de silence avec toi? Où est-ce que je peux prendre ce temps de solitude seul? Toi, Dieu, toi, le Saint-Esprit, avec moi. Donc, dans cette année 2025, prochain dia, Dieu veut qu'on nous montre qu'il veut prendre soin de nous, qu'il a un plan pour nous et qu'il veut nous le relever. Imaginez que Élie a dû se cacher du roi parce qu'il voulait le tuer. Parce qu'il avait annoncé que pendant plus de 3 ans, il n'y aura pas de pluie. Et si vous lisez dans le chapitre de 1 Roi 18, vous voyez qu'à un moment donné, le roi Achab va demander à Abdias, qui était donc un serviteur, qui craignait Dieu, d'aller chercher aussi, d'aller chercher dans le pays s'il y avait des cours d'eau, mais en même temps de chercher Élie. Et on sait qu'à un moment donné, Élie s'est présenté devant Abdias. Et lui, il a dit à Abdias, mais écoute, tout le monde te cherche, tout le monde te cherche. Et puis Élie a dit, ben oui, ben écoute, va dire à ton roi que je vais me présenter devant lui. Puis, vous savez qu'est-ce qu'il a dit dans le verset 10? Abdias a dit, oui, je vais aller vers le roi, puis quand je vais dire, ben oui, Élie est là, quand je vais arriver, tu seras déjà disparu. L'Esprit de Dieu t'aura mis ailleurs. Donc, on sait que Élie était un homme que Dieu peut utiliser de différentes façons. Donc, ça voulait dire que les gens savaient que Élie pouvait disparaître comme ça, d'un claquement de doigts, ailleurs par l'Esprit de Dieu. Parce que les gens voulaient sa mort. Mais Élie va se présenter devant le roi. N'est-ce pas courageux et peut-être un peu fou de le faire après 3 ans et demi de famine? Élie va mettre au défi 450 prophètes de Baal. Et lui, il est seul devant eux. Alors on pourrait dire, bah oui, mais Élie, c'est un prophète spécial, il a reçu une onction spéciale et comme ça. Mais ouvrez notre Bible, ouvrez votre Bible dans Jacques chapitre 5, verset 17. J'aimerais que ce verset puisse être présent dans vos pensées durant toute cette semaine. Jacques chapitre 5, verset 17, il dit, Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Élie est un homme tout à fait semblable à nous. Et ça m'interpelle. Dire, Seigneur, Jacques reconnaît qu'Élie, oui, c'est un grand homme, c'est un prophète que Dieu a utilisé avec force, avec puissance. Mais c'est un homme comme nous, qui prie avec insistance pendant 3 ans et demi pour pas que la pluie tombe. Et qu'ensuite, il pria de nouveau, avec persévérance, pour que la pluie tombe. Élie est un homme comme nous, qui a eu des beaux, qui a eu des bas. Ben, on le sait, on va le voir dans ces prochains dimanches. Des temps où il a voulu même demander la mort. Lorsque la reine Jézabel lui a dit, mais écoute, si je te vois encore, je vais te tuer. Donc, si Élie avait eu des beaux hauts et des bas comme nous, qu'il a eu cette puissance dans la prière, est-ce que nous ne pouvons pas avoir cette puissance aussi, nous? Est-ce que nous ne pouvons pas avoir cette persévérance, cette insistance dans la prière pour voir la puissance de Dieu se manifester? Enfin, comme on le voit dans 1 Roi chapitre 17, verset 39, la réponse du peuple lorsqu'ils virent que le feu tomba, consuma l'holocauste et qu'Élie avait préparé l'autel, la pierre, les roches et toute l'eau. 1 Roi chapitre 17, verset 39, il dit, quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre et en s'écriant, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le monde a besoin d'avoir cette réponse. Le monde a besoin de voir des chrétiens, de voir l'Église dire c'est l'Éternel qui est Dieu. On voit la puissance de Dieu, on voit l'amour de Dieu, on voit la grâce de Dieu à travers ces chrétiens. On voit Dieu agir à travers l'Église. Et ça m'intéresse d'aller vers eux, ça m'intéresse de pouvoir connaître ce qu'ils ont. Mais avant qu'Élie puisse avoir l'accomplissement de ses prières, il s'est préparé pendant 3 ans. Dieu l'a caché du roi et de ses soldats qui cherchaient, qui voulaient le tuer. Dieu a gardé son serviteur pour une mission particulière et pour le préparer. Aujourd'hui, Dieu veut nous préparer pour une mission, pour nous en tant que personne, mais aussi pour notre Église, afin d'être prêt à nous lever et démontrer la puissance de Dieu. Alors, est-ce que c'est possible durant cette semaine de prendre un temps de recul, de chercher réellement la présence de Dieu, d'être à son écoute et nous préparer pour la mission que le Seigneur veut nous donner pour 2025? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit autour de nous, beaucoup de tumultes, beaucoup de bouleversements. Et les gens sont inquiets. Même si les gens se souhaitent bonne année à chaque début d'année, ils sont inquiets de savoir qu'est-ce qui va se passer dans cette année, avec tout ce qui se passe autour de nous, l'économie, le bouleversement, la guerre, etc. Je vous encourage pour que nous puissions dire, pas qu'une personne puisse venir me dire, pasteur, mais j'aurais aimé prendre ce temps, mais j'ai manqué, j'ai eu tellement de choses, il y a eu des bouleversements, il y a eu des imprévus. L'ennemi va faire toutes sortes de choses pour nous mettre des imprévus. Lorsqu'on cherche la présence de Dieu, l'ennemi veut combattre. Alors peut-être laissons de côté notre cellulaire, Internet, la télévision ou d'autres choses ou d'autres activités qu'on peut laisser pour au moins quelques jours de côté pour dire Seigneur, je prends du temps de qualité avec toi. Alors comment est-ce qu'on va s'organiser, comme vous l'avez vu dans les annonces, prochain dia? On veut simplement prendre des temps ensemble, un petit groupe ou seul. Donc, on va prendre des temps en église, mais je vous encourage à peut-être prendre un temps puis appeler une personne de l'église, puis dire, écoute, pendant 10-15 minutes, est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut partager sur le texte qui était proposé, puis partager nos réflexions? Moi, je vous encourage le matin, à midi, pendant un temps de pause ou le soir, de prendre un temps. Peut-être toujours avec la même personne pendant les 4 jours, mais ça peut être aussi deux, trois personnes. Avec le WhatsApp, aujourd'hui, c'est facile de faire des petits groupes pour pouvoir se parler. On peut s'appeler au téléphone, on peut se voir. On peut le faire aussi seul. C'est important de faire seul, prendre. Et je vous encourage, ici, l'église est ouverte. C'est-à-dire que durant toute cette semaine, la chambre en bas de prière, la salle de prière va être ouverte. Vous pouvez venir même en pleine nuit si vous voulez, il n'y a pas de problème. On peut vous l'ouvrir, puis prendre un temps, dire Seigneur. Là, quand vous êtes en bas, là, vous n'entendez aucun bruit. Moi, j'aime beaucoup aller aussi en bas parce que là, je peux vraiment me centrer sur le Seigneur. Donc, le programme pour l'Église à chaque jour, ça va être qu'on aimerait essayer une prière à chaque matin. Alors, j'ai demandé à quelques personnes, c'est quoi le meilleur temps? Bon, on nous a dit de 6h à 6h30, mais on va encore vous vérifier avant mercredi si vraiment c'est le temps. Je sais que c'est peut-être tôt, mais on m'a dit, OK, mais on aimerait le faire avant que les enfants se lèvent et qu'on a besoin de les préparer, avant qu'on se prépare pour le travail. C'est juste une demi-heure pour prendre un temps de prière, pour dire, Seigneur, dès le matin, même si je n'ai pas l'habitude de me réveiller à cette heure-là, je vais faire cet effort pour prendre un temps de prière. Ensuite, chaque soir à 19h à 20h15, un temps de partage et prière sur Zoom, où on va regarder le texte, on va prier, on va écouter le Seigneur à travers ce moment. Et on aimerait que le vendredi, au lieu de. Bon, on va faire aussi sur Zoom, mais le vendredi, on aimerait que les gens on puisse venir ici dans la salle pour un temps vraiment de réflexion, de prière. On va peut-être prendre plus de temps. Donc là, on l'a mis à 19h30. On va encore vérifier si ça fonctionne pour vous, peut-être avec les enfants ou comme ça, mais on aimerait prendre un temps. Si c'est 1 heure, 2 heures ou plus, mais qu'on se laisse inspirer par le Seigneur. Dire Seigneur, je viens dans ta maison avec mes frères et sœurs, puis je veux vivre un temps spécial. Alors, il y aura aussi sur Zoom pour ceux qui veulent, mais on vous encourage de venir. Et on va terminer donc le samedi soir à 19h encore sur Zoom. Donc, voici un peu le programme qu'on va faire. Donc, vous allez recevoir d'ici mardi. Par WhatsApp, par courriel, les informations, les méditations, réflexions. Et on vous encourage de prendre ce temps tous ensemble et qu'on puisse, en tant qu'Église, voir ce que le Seigneur veut nous dire. Alors, courbons notre tête avant de prendre aussi la Sainte Cène. J'aimerais après inviter le groupe de louanges à venir. prendre ce chant. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui nous donne la vie. Seigneur, on te remercie pour cette occasion que tu nous donnes encore ce matin de voir que nous avons besoin de prendre des temps de qualité avec toi. Et surtout dans ce début d'année, Seigneur, on ne veut pas manquer ce rendez-vous spécial. De savoir que oui, Seigneur, ça va être difficile. Peut-être que, Seigneur, on a un programme bien chargé. Mais Seigneur, permet que peut-être des choses nous libèrent. Peut-être des rendez-vous soient annulés pour qu'on puisse prendre le temps avec toi. Permet que nous puissions nous lever le matin ou que le soir, on puisse avoir des temps de qualité seul à seul avec toi. Seigneur, on a besoin de goûter à ta présence. On veut voir comme Élie, ta puissance se déverser. On veut voir comment, comme Élie, tu as pris soin de lui pendant 3 ans dans le désert auprès de la veuve. Seigneur, nous attendons à toi. On veut goûter, on veut te contempler durant ce temps. Aide-nous à voir les choses avec toi. Ne permets pas, comme on l'a vu, les distractions, les divertissements, les préoccupations, le matérialisme ou la technologie nous empêcher de vivre avec toi. Alors merci. Merci pour cette occasion que tu nous donnes. Et Seigneur, oui, on veut s'attendre à toi parce que tu es grand, parce que tu es bon. Merci Seigneur Jésus. Amen.